Bonjour et bienvenue sur le podcast Mission Doula. Je suis Margot, doula depuis 2020 et passionnée de la naissance depuis plusieurs années. Dans ce podcast, vous découvrirez ce métier essentiel, son rôle et ses spécificités. J'inviterai des femmes à venir témoigner de leur histoire de maternité et des doulas à nous partager leur parcours et leur expérience auprès des mères qu'elles accompagnent. Pour ce deuxième épisode, j'ai eu la chance d'interviewer une doula, et pas des moindres, s'il en est. Il s'agit de Julie Toutain, qui nous permet de découvrir son parcours de formation au sein de l'Institut Doula de France et ses couleurs en tant que doula. On en apprend un peu plus sur l'Institut de formation des doulas de France et sur la façon dont elle accompagne les mamans aujourd'hui. Elle nous parle également du livre « Naître ici » dont elle est l'auteur et des modules de formation qu'elle a créés récemment pour les parents et les doulas. On aborde aussi longuement le cadre professionnel lié à l'exercice de notre métier. Un épisode riche d'informations pour les futures doulas et celles qui commencent leurs accompagnements. Bonne écoute!
Bon, ben bonjour Julie, merci beaucoup de me faire l'honneur d'accepter cette invitation. Ça me fait très plaisir de te recevoir.
Merci, j'ai
une première question d'abord pour celles qui ne te connaissent pas, hein, parce qu'il doit quand même y en avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, nous dire un petit peu qui tu es en tant que professionnelle, mais aussi dans la vie?
Oui, bien sûr. Donc du coup, moi je suis Julie. Donc dans la vie, on va dire professionnelle, je suis doula essentiellement. Mais je suis une doula un peu engagée, surtout sur le droit des femmes. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de défendre les droits des femmes. C'est pour cela que j'ai écrit un livre et c'est pour cela que voilà, je crée des formations aussi. Mon but, c'est vraiment de porter cette voix-là, la voix des femmes. Mmh. Et puis sinon, dans la vie, je suis maman, je suis en Dordogne. Mmh. Et avec mon mari, on a créé un lieu d'accueil justement autour de la naissance, mais aussi un peu de tout ce qui est connexion au vivant, permaculture, ouais. Équitation respectueuse aussi. Enfin voilà, pas mal de choses qui tournent autour de ça. Donc
vous recevez des familles. Vous recevez des familles, c'est ça, chez vous.
Alors ça nous arrive d'avoir des personnes qui s'arrêtent chez nous, mais non, plutôt des formations, des choses comme ça. Nous, on fait l'école à la maison avec nos enfants et du coup, on a aussi une association pour faire des activités autour de ça, mais aussi pouvoir proposer des formations, même des événements. On a fait l'année dernière Happy Parenting notamment, où le week-end de la rencontre des doulas, c'est des événements qui sont un peu sous l'étendard de cette association. Donc, voilà, elle a vraiment ce but-là de fédérer autour de, nous on dit du vivant en général, mais tu vois, autour de la naissance, de la parentalité, ouais. Mais aussi de la nature, l'écologie, voilà, c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur tous les deux.
Vous avez avec ton mari créé une association en fait où vous organisez des événements régulièrement.
C'est ça.
Ok, donc tu es bien occupée.
Oui, surtout que j'ai deux enfants petits, oui. Ils ont 4 et 2 ans et que j'attends le troisième là. Donc,
et oui, c'est ça. Ok, bon. Est-ce que tu veux nous parler, donc du coup là on est sur ce podcast qui est consacré aux formations des doulas et à l'exercice de ce métier. Donc est-ce que tu peux nous dire comment tu as su que tu voulais devenir doula? Quand est-ce que c'était? Qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin, en fait?
Oui, alors oui, tout à fait. Alors bon, je pense que comme beaucoup, ça a été la maternité, la grossesse de ma fille. Il faut savoir qu'avant, j'étais déjà dans une association d'accompagnement à l'allaitement maternel. C'était vraiment, c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps.
Ah voilà, oui, avant même de devenir maman, tu avais fait une formation. Oui. D'accord.
J'étais dans l'allaitement, ouais, déjà. Et puis ma grossesse m'a vraiment... Alors, Avant d'être maman, j'étais déjà dans l'association et après, je me suis formée de plus en plus pendant ma grossesse. Vraiment, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux pour mon bébé, etc., etc. Donc voilà, j'essaye de remettre les choses un peu chronologiquement, c'est pas évident.
Donc, tu as été bénévole dans une association autour de l'allaitement ? D'accord.
C'est autour de l'allaitement maternel. Donc, je me suis
formée. C'est quoi comme association, tu pourrais nous dire ?
Oui, c'est l'allaitement tout un art.
D'accord. Ok, donc tu étais marraine d'allaitement, c'est ça ?
C'est ça. Okay. Et je participais activement sur le site internet, enfin sur le groupe, pour répondre aux mamans, etc. Et puis, les filles font des formations un peu régulières aussi pour nous permettre de... Voilà, de d'avancer, etc. Voilà. Et quand ma fille a eu 6 mois, ça me trottait déjà dans la tête. Et puis, je pense que, voilà, ce serait pas faux de dire que souvent, avant de se lancer dans les formations, on est déjà un peu doula, on a déjà cette chose-là qui vibre en nous, le fait d'accompagner, le fait d'être là pour les autres. Donc ça, c'était déjà le cas. Et puis vraiment, un jour, je suis tombée sur ce métier-là, en fait. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Il y a juste une définition pour ce que j'ai vraiment envie de faire.
Ouais.
Donc, pendant la grossesse de ma fille, j'avais déjà quitté mon travail. J'étais déjà au chômage. J'étais un peu entre deux. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, non, mais c'est impensable pour moi de reprendre une activité. Je veux vraiment rester avec elle. Voilà, c'était pas... Et quand j'ai vu le métier de doula, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et ça, j'ai commencé ma formation. Ma fille avait 6 mois, donc j'ai fait la formation de l'Institut Doula de France pendant un an, voilà, avec ma fille, avec moi, en formation en général. Donc c'était assez intense. Elle l'a fait de ces 6 mois, c'est un an et demi du coup. Donc
dormait avec toi sur tes week-ends de formation.
Ouais, alors nous c'était des semaines.
D'accord. Parce que maintenant ils fonctionnent par week-end, hein, je crois.
Alors, sur les deux autres sessions, c'était les week-ends, mais à Lyon, particulièrement, c'était la semaine. D'accord. Donc, voilà. Nous, c'était des semaines. Mais du coup, c'était un peu plus espacé que les autres, mais c'était condensé du coup, en 5 jours en général, 4 ou 5 jours. Donc, on partait à Lyon toutes les deux. On prenait l'avion ou la voiture et puis on partait en formation. Ça, c'était un...
Donc, ta formation initiale, tu l'as faite dans l'Institut Doula de France.
C'est ça.
Qui a plusieurs écoles. Donc, tu dis, toi, tu étais à Lyon. Il y en a une à Bordeaux. Je crois qu'il y en a à Nantes. Enfin, je ne sais plus combien.
Oui, ça dépend des années aussi. Je crois que Bordeaux et Paris, c'est vraiment celles qui ne changent pas.
Ouais.
Et après, ça dépend de la demande, en fait, des doulas.
D'accord.
Je crois que c'est ça.
D'accord. Ouais, est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu de cet organisme de formation ? Enfin, du moins, toi, quand tu y étais, comment ça se passait, du coup, ta formation ? Qu'est-ce que tu as appris ? Et les particularités un petit peu des doulas de France, en fait, de cet organisme ?
Oui, alors moi, ce que j'ai bien aimé dedans, c'était vraiment qu'au niveau théorique, c'est hyper, hyper riche, quoi. C'est une formation très... très condensé, très riche. Il y a vraiment beaucoup de techniques dedans, de théoriques. Il y a pas mal de supports aussi, etc. Notamment, il y a tout un module aussi sur l'écoute active. Donc, on nous forme à l'écoute active. Et ça, je pense que c'est super important aussi dans la posture, etc. À l'époque où moi, j'ai fait ma formation de doula, il n'existait pas autant d'organismes de formation que maintenant. Donc, en général, il y avait ces doulas de France... la première qu'on voyait et du coup, je ne regrette pas du tout de l'avoir faite. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas... Je ne sais pas si la doula que je suis aujourd'hui referait forcément cette formation-là. Parce que moi, après, il va me manquer certaines choses. J'ai plus un bagage, si je puis dire, de doula holistique maintenant. Doula de France et surtout théorique, je pourrais dire. Mais dans mon cheminement, à ce moment-là, c'était vraiment la formation qui me correspondait. J'ai appris plein de choses. Il y a eu de jolis liens qui se sont tissés. C'était vraiment une belle année, quoi. Une belle année de formation, très riche, très intense. Donc,
En fait, c'est vrai que à chaque fois qu'on pense au métier de doula, Enfin, moi, en tout cas, tout de suite, je me suis dit, bah, faut que je fasse la formation chez Doula de France. Mmh. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Et je me demande, parce que je n'ai pas étudié plus la question, mais au final, je n'ai pas fait ma formation chez eux, mais est-ce que ce ne sont pas eux qui ont créé le premier institut de formation pour devenir doula? Est-ce que ce n'est pas eux qui ont amené ce mot de doula, voilà, qui ont légiféré autour de l'exercice de la profession? C'est des questions que je me pose. Et tu vois, je les ai contactés justement parce que j'aurais aimé avoir une formatrice qui puisse... Ben, nous expliquer vraiment. Et pour l'instant, elles ne m'ont pas répondu. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un écoute l'épisode et, et peut me mettre en relation avec elle ou quoi, c'est cool parce que c'est vrai que tout de suite, on pense Doula de France, quoi. J'en ai parlé.
Oui, complètement. Oui, totalement. Alors, je ne saurais pas répondre à la question si c'est elles qui ont créé le premier organisme. Je pense qu'il en existait d'autres. Par contre, il est vrai qu'elles ont, elles ont contribué à faire pas mal bouger le monde des doulas, hein, à une époque où on en parlait moins qu'aujourd'hui. Elles ont lancé pas mal de choses. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est le premier sur lequel on tombe, notamment parce qu'elles ont aussi à cœur de créer un espace sécure en fait, et un cadre légal pour le, pour le travail des doulas. Alors, on adhère pas. Le truc, c'est qu'il y a certaines doulas qui sont pas forcément dans leur charte, donc dans leur annuaire, parce qu'elles adhèrent pas à tout le panel, en fait, si je puis dire, du cadre qu'elles proposent. Mais elles, leur but en proposant ce cadre-là, c'est vraiment de structurer le métier pour qu'il puisse être reconnu et que... un peu comme les métiers médicaux ou alternatifs, ils aient une structure. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'elles sont aussi connues et reconnues. Après, souvent, il y a un amalgame qui est fait, c'est-à-dire qu'on pense que la formation de Doula de France est celle qui nous permet d'avoir le métier en tant, enfin, reconnu, alors que c'est pas vrai. En fait, toutes les formations sont égales à ce niveau-là. De toute façon, le métier n'est pas reconnu. Donc, quelle que soit la formation qu'on fait, on n'est pas plus légitime en fonction d'une formation qu'on fait par rapport à une autre, quoi. Donc, ça, c'est vraiment la notion qu'il faut garder. Mais il est vrai que Doula de France œuvre activement pour créer un cadre autour de ce métier, quoi. Donc, je ne saurais pas. Elles sont instigatrices de pas mal de choses et elles ont quand même bougé pas mal de choses dans le milieu des doulas. Ça, c'est clair qu'il faut... Il faut leur rendre ça tout à fait. C'est important de le signaler d'ailleurs.
Elles ont beaucoup légiféré, ouais, c'est ça, sur la réglementation et tout. Et ce que je trouve dommage, alors peut-être que tu vas me contredire, hein, peut-être que je suis pas au courant de tout ce qui se fait en termes de formation, mais tu vois, moi par exemple, je me suis formée comme doula postnatale auprès de l'organisme Maternité Sacrée, qui donc est une formation en ligne, et l'organisme a été créé par Camille Laperle, qui est québécoise, et donc on n'a aucune on n'a aucune transmission sur la réglementation de ce métier-là pour nous en France, pour l'exercice du métier en France. Et du coup, bah, c'est vrai que si on ne va pas nous chercher les informations et questionner d'autres doulas qui exercent, bah, on se retrouve complètement perdu parce qu'on ne sait pas légalement quel est le cadre de notre profession, quoi. Et encore, là, on parle d'une formation à l'extérieur de la France, mais on sait aussi qu'on peut exercer ce métier sans même avoir fait de formation. Voilà. Et donc, je trouve ça dommage que, justement, il n'y ait pas... Alors, mais peut-être que ça existe, hein, tu vas peut-être me contredire, une formation qui soit spécifique, justement, à l'exercice de ce métier, quoi, et au cadre légal.
Ben, pour alors, maintenant, il en existe une. Alors, je sais, sur le cadre légal, je sais que l'organisme Doula de France fait un module, ça s'appelle le SPIFED, je crois. C'est un module qu'on peut suivre, que n'importe quel doula qui a fait n'importe quelle formation peut suivre sur 2-3 jours, où elle parle vraiment du cadre éthique de la doula. Mais après, ça reste le cadre éthique de la doula selon Doula de France.
Selon la charte à eux.
Voilà, exactement. Après, c'est intéressant dans tous les cas. Mais encore oui. Une fois, hein, on n'est pas obligé d'adhérer à tout, on n'est pas obligé d'être signataire de ça. On peut aussi y aller pour s'informer. Bien. Sinon, il y a la formation d'Élodie maintenant là, qui est à sa deuxième année de promotion, Doula des Lunes. Ouais. Et Doula des Lunes, elle fait une formation qui est plutôt, voilà, plutôt holistique. Et dedans, il y a tout un module sur le cadre légal. Et elle, étant française, elle parle surtout du cadre légal français. Donc dans cette formation-là, ça y est. Et moi, je parle aussi de la mienne. J'ai sorti une formation accompagner la naissance. Ouais. Alors, qui n'est pas une formation de doula, c'est important que je le dise. Déjà, pour le prix où elle coûte par rapport aux formations de doula, oui. C'est un peu comme si c'était un petit module dans une formation. Mais ça peut être intéressant aussi dans le cas, par exemple, d'une fille comme toi qui a fait une formation de doula postnatale. Parce que là, ouais. Je parle vraiment de quel est notre, comment on peut accompagner la naissance. Mm-hmm. Et dedans, bien sûr, je parle aussi de la posture et de la déontologie de la doula. C'est une notion qui est un peu compliquée en France, dans tous les cas. Mm-hmm. Cette notion de légalité, de posture, etc. Parce qu'il y a, on connaît la loi. Légalement, on sait ce qu'on a le droit et pas le droit de le faire. Et en même temps, il y a certains cadres qui ne sont pas forcément... je ne pourrais pas te le retrouver là, mais peut-être tu pourras le mettre en lien après dans la description du podcast si tu la retrouves. Mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle doula qui avait créé un Instagram il n'y a pas longtemps. Elle est juriste également. Ah, et elle fait plein de posts sur tout ce qui est légal. Notamment, tu sais, les grands questionnements sur est-ce qu'une doula peut ou pas être présente à un ANA, en tout cas un accouchement non assisté. Est-ce qu'une doula peut ou pas arriver avant la sage-femme sur un accouchement à domicile. Voilà, toutes ces questions qui se posent. Typiquement, elle, par exemple, elle dit que légalement, il n'y a pas forcément... alors, il faudrait revoir les termes juridiques, etc. C'est vraiment très grossier ce que je vais dire. Mais en gros, elle démontre que plus ou moins, c'est pas la doula pourrait être présente avant la sage-femme. Ce que, par exemple, Doula de France, dans son cadre, dit, c'est non. Quoi. Une doula ne peut pas être là avant la sage-femme.
Donc, et tu vois, c'est rigolo parce que cette question-là, quand j'ai su ça, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, je ne peux pas me former chez eux. Ça a été rédhibitoire, tu vois. C'était vraiment... Alors que maintenant que j'exerce et que je suis parfois présente aux accouchements, mais en même temps, je ne suis pas super à l'aise finalement, tu vois, si on me demande d'arriver avant la sage-femme. Je n'ai jamais eu l'occasion, mais maintenant, je me dis, est-ce que je ne prendrais pas des risques, hein, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un point quoi, de leur charte.
C'est des points super importants qui sont, par exemple, voilà, typiquement au Québec ou aux États-Unis, on n'a pas ce genre de problématique. Donc clairement, il est vrai que dans les formations telles que Quantique Doula ou Maternité Sacrée, on va avoir cette problématique qui revient où oui, faites ça en tant que doula, et en fait, légalement, nous en France, on se heurte à quelque chose qui n'est pas du tout dans cette lignée-là. Donc c'est vrai que le positionnement français est pas évident. Ouais. Moi, ce que j'encourage, c'est juste en tant que doula, pareil un peu que quand j'accompagne les parents en fait finalement dans une naissance où je leur donne un peu tout, c'est-à-dire dans la balance tout ce qu'il est possible de faire, c'est à eux de faire leur choix. Et pour la doula, je pense que c'est aussi à elle de prendre son choix. Une doula qui va à un ANA, pour moi, c'est pas forcément une doula incompétente ou inconsciente. C'est une doula aussi qui a des principes, ça dépend aussi de son propre cadre et qui sait à quoi elle s'expose aussi.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut qu'elle sache, en fait. C'est là toute la difficulté, c'est qu'il faudrait qu'on soit vraiment informé. Peut-être quand on crée notre entreprise, je sais pas à quel moment, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse clairement, savoir légalement ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et après, on prend les positions qu'on souhaite et on est capable de se défendre en cas de problème. Hein, mais c'est vrai que ce serait hyper important d'en savoir un peu plus. Je trouve que c'est vraiment un truc qui manque un petit peu à l'exercice de la profession en ce moment, surtout que c'est une profession qui se développe tellement que va falloir peut-être mettre des choses en place. Donc,
je pense que de toute façon, tant que le métier ne sera pas catégorisé, il ne rentre pas, par exemple, parce qu'on n'aura pas un ordre des doulas comme un ordre des sages-femmes, ce sera toujours un peu difficile de répondre à cette question. Et maintenant, étant donné que c'est quand même un métier aussi qu'on fait avec où on est 100% nous-mêmes, où on peut vraiment mettre de nous-mêmes, voilà, nos propres ressentis, nos propres vécus, est-ce que c'est vraiment un métier qu'on a envie d'avoir sous cadre comme ça aussi? La question, elle se pose. Hein. Je sais qu'il y a vraiment des courants différents par rapport à ça. Il y a les doulas qui veulent vraiment que le métier il soit carré et bien rentré dans les clous. Et il y a des doulas qui sont aussi très heureuses que ce métier puisse avoir aussi la liberté qu'il a aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, ça, c'est une vraie question. Et c'est une question qu'on se pose régulièrement. On fait beaucoup de... Voilà. Et quand on se rencontre...
Ça revient toujours sur le papier, c'est vrai. Hein,
c'est des choses où on se pose encore la question. Donc, voilà, il y a plein de métiers, typiquement aussi l'ostéopathie, tout ça, où ils n'ont pas forcément... Alors, c'est un peu plus légiféré, mais où ils n'ont pas forcément cette idée d'ordre des sages-femmes, des ostéopathes, qui fédèrent tout ça. Et en même temps, pourquoi ce serait eux qui fédéreraient ça et pourquoi on laisserait... une poignée de personnes décidées pour toutes les autres. Voilà, tout ça, c'est des questions super importantes. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de se poser cette question. On n'a pas fini de voir notre métier évoluer aussi. Et puis, je pense qu'en tant que doula, on évolue aussi, tu vois, sur notre propre vision personnelle des choses. C'est-à-dire qu'une doula, elle peut avoir cette posture de dire « moi, je rentre complètement dans les clous ». Et puis, à un moment donné, elle va peut-être dire pour cet accouchement-là ou pour ces personnes-là, par exemple, là, je vais me permettre un tout petit écart de ce que je fais d'habitude. Et puis, un jour, elle va revenir dans les clous. Et puis, un jour, elle... Bon. Et je pense que c'est OK aussi, tu vois. On n'est pas obligé d'être tout le temps droit et de rentrer tout le temps. Bon. Ce qui est important, je pense, surtout en tant que doula, c'est de ne pas nuire aux futurs parents.
Exactement.
D'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est-à-dire... Il y a aussi une question qui se pose aussi beaucoup, qui fait peur et sur lequel travaille donc notamment Doula de France, c'est tout ce qui est incitation ou dérive sectaire. Ils appellent ça les dérives sectaires, c'est-à-dire est-ce que on va pas inciter des parents à par exemple faire un accouchement à domicile ou un nana parce qu'elles n'ont pas de sage-femme plutôt que d'aller à la maternité, et est-ce qu'on va pas les mettre en danger? Voilà, l'idée d'une doula, de toute façon, c'est de ne jamais décider à la place de ou inciter les parents à. L'idée, c'est vraiment de déposer de l'information, que les parents aient les cartes en main et de les accompagner dans leur choix. Mais jamais d'essayer de les inciter d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour la naissance de leur enfant, pour leur choix en postpartum, mais également pour tout ce qui est spirituel, non spirituel, rituel, etc. Donc, il y a vraiment ne pas nuire, c'est super important. Accompagner et pas guider. Enfin,
c'est ça.
Guider, c'est on le voit, mais pas inciter.
Ouais, mais quand tu parles des rives sectaires dont on parle apparemment du Doula de France, c'est ça, c'est un peu le gourou, quoi. Celui qui guide et qui prend un peu des décisions et qui va presque manipuler. Non, donc évidemment, non.
Voilà, c'est ça. Super important de faire attention à ça ou à avoir vraiment une posture neutre, en tout cas. Enfin, on peut être nous-mêmes, mais le but c'est vraiment de pas influencer, quoi. On n'est pas là pour ça. Après, il y a des postures qu'on a, je veux dire, typiquement moi qui suis très allaitement maternel, ben je vais plus avoir des parents qui veulent allaiter, qui vont aller vers moi. Mais par contre, en aucune façon, si j'ai des parents qui ne veulent pas allaiter, je vais essayer de les influencer dans l'autre sens, quoi. Voilà, ça c'est super important, quoi. Je pense que voilà, on a un métier qui est super.
Oui, j'allais dire, en même temps, les parents, quand ils prennent une doula, c'est parce qu'il y a aussi un feeling entre eux et que voilà, ils choisissent leur doula en fonction de leur personnalité et... donc de toute façon il y a un tri qui va se faire de leur côté à eux.
Oui, bien sûr. Moi, tu vois, typiquement, quand, dans mon premier rendez-vous avec les parents, je fais toujours une heure gratuite juste pour qu'on papote, quoi. Moi, je parle un peu de moi, de comment je suis, et puis de dire, par contre, si vous n'êtes pas bien avec moi, c'est, pour moi, c'est OK. Je ne me remets pas en question en me disant, c'est moi qui suis une mauvaise personne, quoi. Je suis juste C'est juste que je ne suis pas la doula qui leur correspond. Et même moi, à certains moments, là, ça m'est arrivé sur cette dernière grossesse où je sentais vraiment que je n'étais pas dans les accompagnements, où j'avais un accompagnement, c'était censé être mon dernier accompagnement, et où j'ai dit non, en fait, je ne me sens pas, je saurais, je suis capable d'aller chez eux, d'être la doula, etc. Mais je ne suis pas la doula que je suis habituellement ou que je voudrais être parce que je n'ai pas la posture. Enfin, émotionnellement, je ne suis pas dispo comme je pourrais l'être d'habitude. Très à mon bébé, très... Et donc, je leur ai dit, ça m'embête, je pense que vous serez mieux avec une autre doula. Et du coup, ça s'est fait comme ça, on a changé, on a changé de doula et c'était important pour moi et pour eux aussi. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'aimais pas beaucoup ses parents. Et d'ailleurs, la maman va accoucher là, si ce n'est pas fait cette nuit, parce que je l'ai vu hier. Donc, mais voilà, elle est sur le feu là, on va dire, et elle est avec une doula que j'adore, qui est aussi ma doula backup,
quand on a voilà. Des limites aussi, faut le dire, et ouais, bien sûr.
Et j'aimais beaucoup ses parents et j'aurais adoré les accompagner, et eux, ils étaient très bien avec moi. Mais voilà, c'était pas le moment aussi. Il y a plein de choses qui s'alignent pas forcément, et c'est bien d'être juste avec ça. Et de pas vouloir aussi forcer, voilà. Parce que moi, j'ai eu un témoignage aujourd'hui, tu vois, justement aujourd'hui, d'une personne sur Instagram qui m'a dit qu'elle n'osait pas reprendre une doula parce que ça s'était très mal passé avec la première. Ça peut arriver. Dans tout, en fait, on aura toujours des dérives ou des doulas qui outrepassent leur rôle, soit parce que ça aussi, tu vois, même quand on s'interroge sur la présence, est-ce qu'une doula doit être ou pas un nana ? Est-ce qu'une doula doit arriver ou pas avant la sage-femme ? Ce qui est super, super important, la première question, enfin, le premier point qu'on doit aborder là-dedans, c'est que quelle que soit la décision qu'on prend, il est fondamental que les parents soient au courant qu'on n'est pas du tout une personne médicale, quoi.
C'est ça.
Et qu'ils n'essayent pas de prendre une doula, alors surtout dans le cas d'un nana, par exemple, mais pour remplacer une sage-femme, pour remplacer un manque qu'il y a quelque part. Moi, j'ai beaucoup ce truc de parents qui disent « Oui, alors, est-ce que... voilà, j'ai pas de sage-femme dans mon secteur et du coup, j'aimerais prendre une doula. » Et là, je dis « Non, là, stop, on s'arrête tout de suite. On prend pas une doula. Du coup, on prend une doula parce qu'on a un projet d'Anna et qu'on se dit « Ce serait bien d'avoir une petite fée qui veille à côté de nous. » Mais pas du tout pour se dire « Je me sens sécurisée parce qu'elle elle va gérer, quoi. » Elle ne gère pas la doula. Elle n'est pas là pour gérer le côté médical.
La doula, elle ne connaît pas. C'est la mettre en danger même à elle. Enfin, c'est clair.
Si c'est pris dans ce cas-là, si moi, je leur dis toujours, imaginez que là, en fait, c'est votre copine qui est comme vous et qui vient juste,
comme une sœur, une copine.
Bien, quoi. S'occuper des aînés, gérer un petit peu l'environnement, mais en aucune façon la doula c'est quelqu'un qui remplace un médical. Donc ça, je pense que voilà, il faut vraiment le mettre sur les sites internet, il faut vraiment en parler. Une doula c'est pas une sage-femme du tout. Donc je pense que quand les parents sont vraiment ok avec ça et qu'ils ont vraiment compris le rôle de la doula et que la doula elle est pas là pour remplacer, c'est pas parce que c'est une professionnelle milieu de la naissance qu'elle gère et qu'elle c'est pas une professionnelle médicale, elle est pas du tout formée médicalement. Donc si les parents ont bien ça en tête, je pense que déjà les demandes sont différentes, on aura beaucoup moins de demandes forcément de présence aux ANA, mais aussi voilà, ce sera très différent. Et en tout cas, même quand on a cette question là ou quand on se pose en tant que doula cette question, par exemple, ça arrive aussi pour une amie qui demande d'être là pour un nana, où on se dit, pour cette personne-là, peut-être que je dirais oui ou je ne sais pas. Il faut vraiment, vraiment que le doute ne soit pas permis, quoi, à aucun moment.
Que les choses soient bien claires dès le départ, parce que c'est clair qu'une doula, elle ne sera pas capable de dire s'il y a urgence ou pas à appeler les pompiers. Enfin, voilà, des trucs comme ça. C'est clair que ça peut mettre en difficulté tout le monde, quoi.
Oui, et puis après, on a ce truc, donc quand on parle du cadre légal, justement, qu'on se dit le métier n'est pas encadré, etc., il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. Donc je reviens sur cette présence à l'ANA parce que c'est souvent la question qui revient énormément, est-ce que je peux ou je ne peux pas. Techniquement, la réponse, elle est non. L'idée, c'est de ne pas être... Enfin, on ne peut pas parce qu'on intervient en tant que professionnel, même si on n'est pas médical, etc., on est sur une naissance en tant que professionnel. On n'est pas là en tant
qui est rémunéré, c'est ça.
Qui est rémunéré, voilà, pour un travail.
Pas comme si c'était quelqu'un de la famille ou une amie et on est là, voilà. Voilà. Bien sûr, ouais.
On est rémunéré, c'est un travail. Donc, s'il y a une problématique, n'importe laquelle, clairement, il faudrait redemander à cette doula juriste. Je suis désolée de ne pas avoir...
Mais oui, on la retrouve.
Parce que c'est super ce que tu dis. Mais je crois qu'elle a fait un post sur l'ANA et justement, okay. Où elle en parle, où elle dit... Ouais. Voilà. Ouais, c'est super d'avoir fait un compte comme ça. Ah, mais ouais. Où, du coup, elle dit, elle dit bien que voilà, là, on peut avoir des problématiques de non-assistance à personne en danger.
Ça.
Donc voilà, au niveau de la légalité et la présence à l'ANA, on a plus de cadre que par exemple le fait qu'on arrive avant la sage-femme. Mais bon, tout ça, c'est des questions qu'il faut vraiment creuser et il faut vraiment savoir pourquoi on dit non, pourquoi on dit oui, dans quelles circonstances on dit non, dans quelles circonstances on dit oui. C'est super important voilà, de faire... Et pour ça, ce week-end de formation aussi chez Doula de France, il peut être super intéressant. Pour avoir plein d'infos à ce niveau-là, quoi. Donc,
et puis, mais oui, soi-même savoir se positionner parce qu'on n'a pas toutes les mêmes postures.
Et oui.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est que ça nous forme.
Tout en sachant que ça peut être évolutif à tout moment. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des familles, qu'on n'a pas forcément envie de s'exposer à quelque chose de dangereux. Ouais, voilà, c'est super important aussi, justement, comme le métier n'est pas encadré, d'avoir des cadres, quoi, qu'on se met nous-mêmes pour plein de raisons. Et puis, parce que des fois, on a envie, on est super triste pour une maman qui dit bah, « je suis, j'ai pas de sage-femme », pour peu que ce soit une maman qu'on suit depuis super longtemps et qui se fait abandonner par une sage-femme au dernier moment. Et on se dit, mince, je peux pas la laisser dans cette situation là il faut pas oublier que nous-mêmes en tant que personne voilà, à quoi on s'expose, quoi. À quoi on s'expose, de quelle manière on se met en danger si on prend ce genre de décision, etc. C'est vraiment super important et je pense que du moment qu'il y a le moindre doute, il vaut mieux dire non que oui. Dans tous les cas, il vaut mieux se protéger. Et en même temps protéger le métier aussi, parce que
bien sûr.
Il y a beaucoup de dérives de doulas. Par exemple, je sais pas, dans l'année il y a 10 doulas qui sont allées à des ANA avec 10 problématiques et qu'on n'entend parler que de ça.
C'est ça, parce qu'en plus on a toujours l'impression qu'on nous attend un peu au tournant.
Oui.
Et donc, il ne faut pas faire de faux pas si on veut protéger aussi ce métier. C'est sûr qu'il faut se protéger.
C'est aussi collectif.
C'est collectif, bien sûr. Puis pour les parents aussi, de toute façon.
Oui, et protéger les parents aussi, c'est fondamental. Bon, ça venait dans le cadre du ne pas nuire que j'ai dit en tout premier. Mais c'est vrai que, bien sûr, pour les parents, ensuite, se protéger les parents, c'est super important. Si à un moment donné, rien que le fait de dire « je suis là, un ANA », alors qu'il y a des parents qui, en face, par exemple, comptent sur nous vraiment comme remplacement de la sage-femme, là, on ne protège pas du tout les parents, ni le bébé. Du coup, on ne se protège pas, nous, et on ne protège pas le métier non plus. Donc, voilà, c'est vraiment des choses à cibler. Mais le cadre légal est très compliqué. Et c'est super d'avoir justement, je trouve, ce compte Instagram qui a émergé il n'y a pas longtemps et qui remet pas mal de choses à leur place aussi et qui permet de voir un peu plus clair au niveau législatif, quoi.
Ok. Du coup, donc, tu nous en as parlé un petit peu. Aujourd'hui, tu es doula holistique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'être doula holistique et comment tu t'es formée justement pour élargir un petit peu ta pratique pour devenir ce que tu es?
Du coup, une doula holistique, ça veut dire que ça prend l'individu dans son ensemble. En fait, ça touche un peu tout. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment ce truc d'accompagner tout ce qui touche à la naissance, que ce soit d'un point de vue physique, émotionnel, donc par les soins aussi, la future mère. Quand j'ai des messages qui s'affichent, là, ça me coupe.
Ça te perturbe.
Ça me perturbe, mais je ne peux pas couper les messages et en même temps, du coup, j'ai perdu ma connexion. Donc, oui, donc c'est vraiment quelque chose qui traite la femme dans son ensemble, en fait, enfin, qui accompagne la femme dans son ensemble et la famille également. Moi, alors... j'aime ce terme holistique parce qu'il a vraiment ce truc de prendre... l'individu dans tout ce qui touche, il n'est pas juste, si je puis dire, théorique. Il a vraiment ce côté, l'émotionnel est aussi important que le physique, ouais. etc. Et j'ai vraiment ma posture à moi, cette envie d'avoir pour les femmes et les familles, du coup, leur accouchement parfait, quel que soit. Comment il se passe, en fait, hein, qu'il soit à la maison, à l'hôpital. Mais je voudrais qu'au final, il sorte de cette aventure complètement et pleinement satisfait. Et ce, même si ce n'est pas la naissance qu'ils auraient voulu. Dans le cadre d'un AAD qui se finit, par exemple, en transfert, ou vraiment de pouvoir renforcer les capacités des femmes à pouvoir accoucher, donc garder cette idée que la femme, elle peut accoucher seule. Sans aide, mais que si à un moment donné elle décide d'être accompagnée d'une façon ou d'une autre par une équipe médicale, par exemple si c'est un projet d'AAD, il faut qu'elle sache au fond d'elle que c'est ok aussi, quoi.
Ouais.
Et voilà, ça c'est tout un travail global, je trouve.
Et du coup, tu as suivi quelle formation complémentaire pour ou pas, je ne sais pas d'ailleurs.
Si j'en ai fait plein.
Ouais. Alors.
J'en ai fait plein. Là, j'ai levé le pied un peu parce que.
Ouais.
Parce qu'on a envie de tout faire, mais
oui, j'ai fait. Il y a trop de choses qui nous intéressent, c'est ça. Puis on a toujours des nouvelles, donc.
Ouais. C'est ça. J'ai fait une formation avec j'ai fait le séminaire de Quantique Mama. J'ai fait le séminaire de Isabelle Chalut sur 3 jours, accompagner la vie. Et également le séminaire de Michel Audin sur 2 jours avec Liliana Lammers.
Ouais.
Donc, celle-ci, c'est pour les plus connus.
Ouais. Les incontournables, presque.
Voilà. Okay. Mais après, j'ai aussi appris beaucoup auprès des sages-femmes avec qui je travaille.
Ouais.
Et aussi avec des sages-femmes traditionnelles, tu sais, des sages-femmes mexicaines qui venaient... donner un peu de leur expérience
et
ça c'est super, super intéressant.
Donc tu t'es certainement formée au rituel du rebozo et puis
alors je suis pas encore formée au rituel du rebozo. J'ai des amis qui m'ont transmis des choses et donc du coup et je l'utilise beaucoup, mais je fais pas le soin complet rebozo.
Ouais, okay.
Et c'est un but que j'ai avec ma doula backup, justement qu'on se forme ensemble.
Oui.
Parce que aussi du coup elle le fait, elle pratique le rebozo, mais pareil, elle a été formée par ça a été transmis par des amis. On a vraiment à cœur de faire une formation toutes les deux ensemble pour le proposer en soins individuels.
Ouais.
Mais j'utilise le rebozo aussi dans mes resserrages en postpartum, etc. Tout ça je l'ai appris, je sais le faire, mais c'est pas un vrai soin rebozo de fermeture, le soin qui dure 4 heures.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup tous ces soins. Je me suis formée. Après, oui, j'ai fait une formation en naturopathie aussi, pour moi, humaine et animale, et une formation en herboristerie aussi.
D'accord. Herboristerie et naturopathie, du coup, tu as fait une spécificité aussi pour l'accompagnement des femmes enceintes et du postpartum ou...
Alors là,
c'est
encore,
très large.
sur une problématique de l'égalité, puisqu'en tant que doula, je ne peux pas faire de la naturopathie, tu vois, pour les femmes enceintes.
Ah bon?
Non, c'est très compliqué parce qu'en fait, techniquement, en tant que doula, alors ça, c'est le postulat aussi beaucoup doula de France, qui n'est pas forcément celui dans lequel je rentre, voilà, moi personnellement, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais par exemple, techniquement, on ne serait pas censé prescrire ou conseiller ou offrir une tisane à une maman enceinte en tant que doula, tu vois.
D'accord.
Donc, c'est important de savoir, tu vois, ce que tu auras par exemple sur ce mode.
Ça va loin quand même leur charte, donc pas de tisane.
Pourquoi? Parce qu'en fait, D'un certain point de vue, il y a par exemple, tu vois, typiquement, si une doula, elle donne de la sauge à une femme enceinte et que ça la fait travailler, ouais. C'est un peu chaud. Les plantes, c'est pas anodin non plus.
Non, mais c'est sûr, c'est quelque part, voilà. On comprend parce que voilà. Il peut y avoir des effets secondaires et tout, mais en même temps, enfin, ouais, en fait, ils ont pensé à tout.
Voilà, c'est ça.
Ils ont pensé à tout et ils ont vraiment. Ouais, ils ont vraiment cadré le truc au maximum, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de liberté, quoi. Enfin, là pour le coup,
et ouais, voilà. Ouais. Après, voilà, chacun fait, enfin, le ressent et le reçoit comme il le
bien
sent.
Sûr, bien sûr, bien sûr.
Je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui adhèrent à 100%. Moi, à titre tout à fait personnel, je ne peux pas rentrer dans ce cadre-là parce que je perds mon authenticité. Moi, si je rentre dans le cadre de la charte et ce pourquoi je travaille, néanmoins. Je peux comprendre pourquoi ça a été mis en place.
Ah, oui.
Et parce qu'une plante, ce n'est pas anodin non plus, tu vois.
Ouais,
donc, par exemple, même si on prescrit de l'homéopathie, etc., on passe un peu la fonction. On est dans le thérapeutique. On est dans le thérapeutique. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà.
Et on n'est plus coup, dans le. Si tu fais une formation d'herboristerie ou de naturopathie, là, au moins, tu as les connaissances et tu peux.
C'est ça. Voilà. Mais je suis obligée de cloisonner un peu, c'est-à-dire que je ne peux pas en tant que doula faire un conseil de naturopathe.
D'accord.
C'est très compliqué.
Ah ouais,
après, moi, je ne m'estime pas naturopathe parce que mes formations, elles sont quand même... bon, mais j'avais quand même pas mal de connaissances. C'est quelque chose de pas... Avec mon mari, on est très dans la nature, on fait beaucoup de cueillettes sauvages, on cultive nos propres plantes. On est vraiment là-dedans à fond, hein. C'est vraiment... On connaît les bienfaits de la grande majorité des plantes, on s'en sert au quotidien. On se soigne beaucoup avec ça. Donc voilà, ça, c'est mon truc à moi. Mais néanmoins, je me prétends pas naturopathe comme certains naturopathes qui ont vraiment plus... je fais pas de consultation de naturopathe ou de naturopathie ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même que je cloisonne entre les deux. Voilà. Ouais. Mais rien que pour moi, en fait, c'est super important. Bah, typiquement, si je vois une femme enceinte en train de se faire une infusion à la sauge, j'ai quand même un truc qui me dit wouh, warning, on se calme. Voilà, il y a des fleurs comme ça, des plantes qui sont pas. Donc je peux me permettre de dire stop, arrête de boire ça tout de suite. Et ça m'aide sur pas mal de choses. Voilà, puis après, je me dis que le métier évoluera peut-être, donc ce sera peut-être plus facile aussi pour moi d'intercaler ça dedans. Si c'est pas le cas, mais voilà, c'est.
On peut avoir deux casquettes et voilà, quand on est doula, on a la casquette de doula et quand on fait autre chose, parce que moi tu vois je suis infirmière et du coup c'est hyper délicat des fois pour moi, tu vois, parce que j'ai des connaissances médicales sur certains trucs, alors pas, enfin voilà, pas plus que ça sur la grossesse, le postpartum et tout, j'en ai un peu de par ma formation d'infirmière, mais je cloisonne vachement quand je suis doula, je suis pas infirmière. Et c'est vrai qu'il faut vachement se protéger parce que... Et tu vois, des fois, j'ai des clientes qui me disent « Oui, mais toi, t'es infirmière, tu connais... » Ben non, 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 non. Attention, non, non.
Et ouais. Mais en même temps, d'un autre côté, et c'est ça que je trouve difficile, c'est que c'est toi aussi. Tu vois, quand on te demande de te raisonner, tu ne peux pas être complètement... Enfin, à un moment donné, c'est toi, ça fait partie de toi.
Il y a toujours...
Donc, c'est super difficile. Ça, c'est vrai que c'est super difficile. C'est intéressant aussi. Hein. Et c'est ça aussi, encore une fois, où on se pose la question. Et je pense que c'est et collectif, donc pour le bien du métier, comme on le disait, par exemple, sur cet exemple de l'ANA, qui est le plus représentatif, je pense, du danger potentiel.
Ouais.
Mais sur toutes les petites choses, la question se pose, se poser la question avant tout. Voilà. Moi, qu'est-ce que je suis? Moi, qu'est-ce que je fais? Et puis après, aussi collectivement, qu'est-ce que je fais? Etc. etc. Et puis, ça peut... en fait, c'est super intéressant aussi d'échanger avec les copines, quoi. Les copines doula. Même quand on a un doute ou on a ce truc d'être dans un métier quand même qui est hyper... Bon, alors, ça dépend, hein, c'est toujours pareil. Mais normalement, on est quand même dans un métier où on a beaucoup de sororité et où on a des liens qui sont assez forts de doula à doula. Et donc, d'avoir un petit groupe de doulas à qui on peut déposer et de dire, voilà, là, j'ai cette situation-là. Est-ce qu'on peut échanger ensemble? Est-ce qu'on peut discuter? Et c'est super important, quoi, je pense.
C'est clair.
Pour toutes les situations, quoi.
Ouais, carrément. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question que je voulais aborder? Qu'est-ce que tu proposes comme prestation, en fait, à tes clients? Donc, tu as tes accompagnements, j'imagine. Est-ce que tu as aussi d'autres
prestations que
tu leur proposes?
Moi, je fais du conseil à l'allaitement. Donc, forcément, ça, c'est on va dire, mon gros domaine de compétence, c'est l'allaitement parce que je
D'accord.
me suis formée, reformée. J'ai fait énormément d'accompagnement des mamans à l'allaitement, donc c'est vraiment un sujet qui me passionne et voilà, que je maîtrise bien, on va dire. Donc je fais aussi du conseil à l'allaitement individuellement, si je puis dire, en tant que doula, mais je ne suis pas
consultante en lactation pour référent.
Oui, une référente, une marraine, si
voilà.
je puis dire, plutôt qu'une
pas dans le cadre d'accompagnement, en fait.
Oui.
Voilà. Ouais.
Pas hors accompagnement, oui.
Ouais.
Je propose aussi des fois sur des femmes enceintes que je vois une fois ou deux,
ouais.
juste un accompagnement à l'allaitement.
Okay.
Pas forcément à la naissance, quoi.
Ouais.
Mais des fois, les accompagnements à l'allaitement se transforment quand c'est, par exemple, une maman qui vient pendant sa grossesse pour faire une rencontre et se renseigner. Ça m'arrive souvent de faire une rencontre pendant la grossesse. Je le recommande d'ailleurs, où je donne pas mal d'infos qui sont assez, pour moi, nécessaires pour se sentir en confiance, quoi, au moment de la naissance. Souvent, ça peut se transformer en accompagnement doula après. voilà, ou alors, mais après moi, je suis quand même doula, donc si je vais voir une maman juste en postpartum, j'ai tendance à mettre ma petite casquette de doula et puis à faire un peu de ménage, un peu de, voilà,
ouais.
c'est si je passe à la maison de la maman, lui faire du thé, lui apporter des petits gâteaux de lactation que j'ai préparé, voilà, des petites choses comme ça.
Ouais.
Et bon, ça, donc je fais ça. Je propose aussi des massages. À une époque, je faisais beaucoup. Alors, en ce moment, je suis vraiment en stand-by. J'ai levé le pied sur tout ce qui était présence physique, puisque avec ma grossesse, j'ai vraiment besoin voilà, là, de mettre un peu de côté tout ça. Donc, je ne pense pas reprendre avant juin. Et même si j'ai eu beaucoup de demandes, ça fait un moment que je ne m'autorise pas à prendre plus de 2 accompagnements à la fois. Sinon, je ne fais pas du qualitatif, en fait. Pour moi, c'est impossible. S'il y a trop de mamans en même temps, Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Peut-être en juin. C'est sûr que je ne reprendrai pas avant juin. Et il est fort probable que ce ne sera pas, de toute façon, plus d'une à la fois.
Mm-hmm.
Je vais être pleinement avec cette maman-là. Mes enfants ont 2 et 4 ans, quand même. Tu vois, c'est pas...
Mais tu vois, on est dans la même situation. Moi, j'ai mes filles qui ont 4 ans et demi, 2 ans et demi, et j'accouche en février. Donc, tu vois, c'est...
Ah ouais,
thématique. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai dû annuler un accompagnement qui était prévu pour novembre ou décembre, je ne me souviens plus. Mais
ouais. Bah oui, ouais, voilà, c'est important.
Faut penser à soi aussi.
Et puis appliquer ses propres conseils aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Mais
c'est, ça.
Tu
vois, voilà. C'est ça, c'est qu'en plus, on est les premières à dire aux mamans de penser à elles et de se ménager. Donc, ouais.
Donc voilà, après voilà, en service, moi de toute façon j'ai l'accompagnement global et il varie en fait, et ce que je dis tout le temps aux parents, surtout lors du premier rendez-vous, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de partir sur une idée, parce que des fois ils veulent prendre tout de suite l'accompagnement de 10 heures et des fois ils font moins, ou alors ils veulent prendre une fois une heure et demie, puis on arrive très vite à 10 heures et je leur dis que tout est modulable en fait. Et puis ils me disent, oh, on va avoir super besoin en postpartum. Et en fait, c'est des gens que je vais voir 8 fois pendant la grossesse et 2 fois en postpartum, quoi. Et en fait, c'est difficile. Et puis les besoins sont changeants, tout est évolutif, on ne sait pas du tout la circonstance. Donc moi, je leur dis toujours que je m'adapte à eux en fonction et que tout peut changer. Mais en général, si par exemple j'arrive à 10 heures, et bien à la fin, ils me payent. 10 heures, quoi. Il ne me paye pas 1h30, plus 1h30, plus 1h30.
Ah oui.
Je recalcule le forfait pour qu'à la fin, ils aient la réduction, si je puis dire, des 10 heures. Voilà, parce que des fois, ils ont envie de prendre 10 heures en pensant que ça va leur coûter moins cher. Et finalement, ils n'en ont pas tant besoin. Donc, bon, voilà, c'est assez...
Oui, tu modules en fonction.
Je module en fonction de leurs besoins. Et voilà. Et donc, du coup, bah, y a tout l'accompagnement global, le soutien à l'allaitement. Et puis après, à l'intérieur de tout ça, voilà, j'ai tendance à faire des petits massages aux femmes enceintes.
Du serrage
du bassin. Voilà, des petites choses, des petits soins. Et puis voilà, à une époque, je faisais beaucoup d'ateliers, de réunions, de cercles de femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir aussi. Mais quand je ne sais pas, après le but, donc nous, ça fait qu'un an qu'on est sur le lieu. Et donc cette année, quand on a commencé à ouvrir le lieu aux premiers événements, j'étais enceinte de 3 mois. Donc en plein premier trimestre, en plus, je ne faisais que vomir. J'étais épuisée. Et puis en fait, maintenant que je sais que tu es dans la même circonstance, dans la même situation, une troisième grossesse, c'est très intense, quoi, physiquement.
Voilà.
Un peu plus claqué que pour les deux autres. Et donc, j'ai vraiment à cœur de ménager du temps et des petits espaces pour moi. Voilà, donc on a repris les événements et finalement, on a dû en annuler quelques-uns parce que c'était trop d'organisation. Typiquement, moi, j'avais une formation à allaitement qui durait une semaine. Donc, 6 jours de formation où il n'y avait que moi qui formais. Je me suis dit non, je n'y arriverai pas en fait, c'est impossible. Je voyais la date arriver et c'était une montagne pour moi. Et je me disais non, j'ai besoin en fait de tout d'un coup me mettre dans mon canapé et me reposer pendant 1 heure ou 2 dans la journée. Et je ne me voyais pas enchaîner 6 jours d'affilée. Donc j'ai annulé cette formation et ça a été le cas pour d'autres événements comme ça dans l'année. Donc c'était OK.
Mais du coup, t'as quand même créé tes programmes sur Internet aussi, c'est ça? Parce que du coup, t'as des prestations à distance.
Oui, alors ça, du coup, j'ai aussi ça. Ça me prend du temps aussi parce que mine de rien, bon, alors déjà, il y a tout le temps, là, je suis en train de finir la formation Accompagner le postpartum. C'est la dernière que je vais mettre en ligne. Et après, je m'arrête là, je pense, pour les formations en ligne. Elles ont pour but, en fait, d'être comme des modules complémentaires que les doulas ou pas, en fait. Ça peut être aussi les ostéopathes. Les parents peuvent. Après, c'est vraiment accompagné. Donc, c'est plus...
Ah d'accord, c'est sur le versant accompagnement, pas sur le versant préparation.
Oui, préparation, j'en ai une comme ça.
Préparation en postpartum, non.
J'ai une formation complète qui va de la préconception au postpartum, en passant par l'allaitement, pour les futurs parents. Okay. Et après, j'ai fait 3 formations-là, donc accompagner l'allaitement, accompagner le postpartum et accompagner la naissance, qui, elles, sont vraiment à destination des professionnels et qui ont vraiment soit le... Alors, ça ne peut pas remplacer une formation de doula, hein, c'est ce que je dis tout le temps, même les 3 ensemble, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aborde pas et qui ne vont pas dans une grosse formation de doula. Par contre, elles peuvent être intéressantes comme formation complémentaire, où tu vois, comme quelqu'un comme toi, par exemple, qui a fait la maternité sacrée, tu peux prendre le module naissance, tu vois, ou quelqu'un qui n'a pas de formation, justement, on en parlait, mais qui, par contre, a une grosse expérience des accouchements à la maison. Moi, j'en connais, hein, des doulas comme ça, notamment des doulas qui ont travaillé avec des sages-femmes, qui les ont accompagnées, qui ont une grosse expérience et qui ont 7 postures de doula. Mais pour elles, ça peut être super intéressant parce qu'il y a tout le côté aussi, posture, déontologie, etc., etc., qui est assez important. Donc, elles ont vraiment pour but d'être comme des petits modules qui vont venir se greffer. Soit on peut prendre les 3, soit on peut en prendre 2, soit on peut en prendre qu'une. Et tout est évolutif aussi dans ces trucs-là. Mais ça prend du temps aussi, mine de rien, parce que, tu vois, tous les mois, j'y vais... je vérifie donc qui a bien validé sa formation, j'envoie les attestations. Bien sûr, il y a toutes les questions pendant la formation. Je gère un groupe WhatsApp sur chaque formation. Et donc,
on peut embaucher de community manager.
C'est pas au programme pour l'instant, mais voilà, c'est vrai que c'est intense. Si je prends l'exemple de la formation allaitement, on a un groupe WhatsApp donc avec les. Alors, toutes ne sont pas dessus, mais. Je crois qu'on est à peu près 150 sur ce groupe.
D'accord.
Oui, parce que j'ai à peu près 200 personnes qui suivent la formation, quelque chose comme ça, tu vois.
D'accord.
Et donc, sur ce groupe, il a aussi pour but, dès qu'une des filles qui suit la formation rencontre une problématique avec une maman,
qu'elle accompagne, qui viennent en aide.
Et il y a aussi le groupe soutien à l'allaitement maternel, donc Inter de Mères, qui là est un groupe qui est fait pour que mes formées, justement, puissent répondre aux besoins des mamans. Et donc, souvent, s'il y a vraiment une problématique auquel aucune d'elles peut répondre, eh bien, je suis citée pour aller voir. Donc, tout ça me prend quand même aussi beaucoup de temps. Donc, bien sûr, moi, ce que je préfère, c'est l'accompagnement physique des parents. Mais en fait, je me rends compte vraiment que j'adore former. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Là, on a fait une formation accompagnée la naissance aussi, mais avec Lisa, qui était naturopathe. Enfin, qui l'est toujours, d'ailleurs. Moi, je dis qu'il était. Qui est naturopathe. Et son conjoint Antoine, qui est ostéopathe spécialisé dans la périnatalité.
Ouais.
Et on a fait cette formation à 3 voix. Sur 2 jours. Donc, du coup, c'était hyper intense en termes de rythme et d'information, parce que 2 jours, on est 3 intervenants quand même. Mais c'était génial. Et c'était hyper enrichissant. Et on en refera, parce que vraiment, cette formation-là, elle a le mérite d'être connue, je pense. Mais du coup, j'adore ça. Donc, je n'ai pas envie de laisser tomber ça. Et l'idée, en fait, de ce lieu aussi, c'est que de juin à octobre, donc sur la période chaude, parce que c'est un lieu qui est lié des formations, que moi je puisse faire mes formations allaitement aussi en présentiel, des week-ends complémentaires de formation pour tous ceux qui suivent les formations en ligne, et puis accueillir des événements aussi. Tu vois, on a fait Happy Parenting, la rencontre des doulas, c'était vraiment des super moments, et ça je veux que ce lieu y vive pour ça aussi. Donc
C'est ce lieu que tu appelles Inter de Mères, en fait, c'est ça?
Oui, Inter de Mères, à la base, c'est mon auto-entreprise.
Voilà, c'est devenu ce... Ouais.
Et du coup, on est dans ce lieu-là.
Donc, c'est en Dordogne.
En Dordogne, oui.
Ouais.
C'est un lieu où on a un endroit pour accueillir les formations, une grange qu'on a retapée avec une belle cuisine d'été... des canapés, c'est super cosy. Et puis notre lieu de manière générale, où nous on a un potager en agroécologie bio, on essaye d'être autonome au niveau alimentaire, on a les chevaux aussi qui sont en équitation naturelle, avec lesquels j'ai fait un peu de médiation aussi, de médiation animale, avec lesquels je fais pas mal de communication animale aussi. Et puis le lieu enfin c'est un grand lieu ouvert, magnifique, avec plein de coins de forêt. Et il est accessible aux familles. À chaque fois qu'il y a même la rencontre des doulas, ou même en formation, quand j'ai 10 de participants et que les participantes me disent « Est-ce que je peux venir avec mon mari et mes 2 enfants ?» Voilà, le but, c'est que toute la famille puisse être sur le lieu pendant les formations. Voilà, il a ce but-là aussi d'être vivant et accessible à tous, quoi.
Ok. Voilà. Bon, il faut qu'on découvre.
Donc, ça fait pas mal de boulot, quoi. Donc, forcément, le en ligne, les enfants. Mais là, actuellement, les accompagnements, peut-être un jour, on élargira. Tu vois, avec mon mari, déjà, on est déjà 2 sur la gestion du lieu, etc. Peut-être qu'un jour, on prendra quelqu'un. On n'en est pas du tout encore là. Pour l'instant, on est tous les 2. On a 2, bientôt 3 enfants en bas âge. Et donc, pour faire plus qualitatif, je suis obligée de faire très peu d'accompagnement, quoi, si je puis dire, donc à la fois. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je travaille avec une doula backup. Du coup, c'est Sarah, qui est en Dordogne et que j'ai rencontrée ici, qui a été un vrai coup de cœur amical, puis un coup de cœur doula. Et on a mis en place ce système de doula backup. Donc là, pour l'instant, moi, je ne suis pas du tout cette doula backup, mais voilà. Mais en fait, l'idée, c'est que vraiment... au moins une fois pendant les rencontres qu'on fait avec les parents, l'une ou l'autre, on rencontre une fois les parents toutes les 2, donc que ce soit ses accompagnements à elle ou les miens. Comme ça, le jour où, par exemple, de l'accouchement ou sur un postpartum, que les parents ne se retrouvent jamais sans doula, quoi. Qu'ils aient à un moment donné toujours une doula et qu'ils connaissent la seconde doula, qu'elle les ait déjà vues, qu'elle est déjà... Voilà. Si c'est un peu de lien avec eux, typiquement, on ne sait jamais. On peut se casser une jambe ou être super malade.
Bien sûr, ouais.
C'est pas très sécure d'aller, par exemple, à une naissance alors qu'on a 42 fièvres, qu'on n'est pas bien du tout, ou quand nos enfants sont super malades. On a toujours ce truc d'avoir la doula backup, c'est-à-dire la doula qui va nous remplacer et dire « Bon, là, je ne suis pas là, mais elle est là pour vous. » Oui, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et Sarah, elle est beaucoup sur les groupes parce qu'elle est bilingue, des doulas américaines. Et donc, elle s'est pas mal inspirée du fonctionnement américain pour ça.
Ouais.
Et ça, c'est un truc qu'on devrait démocratiser, quoi, vraiment beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
On peut être une, deux, trois doulas backup, tu vois, mais je trouve que c'est chouette parce qu'on laisse jamais les parents à un moment donné sans doula, quoi. Et puis après, pour les tarifs, on s'organise. C'est-à-dire que si c'est moi, par exemple, qui accompagnais des parents, le jour de la naissance, même si ce n'est pas moi qui y vais, je touche quand même un pourcentage sur la naissance. Et elle touche un autre pourcentage qui est plus important, forcément, parce qu'elle est sur la naissance. Mais il y a aussi ce truc financièrement, si on peut s'y retrouver. Ouais. Parce que, c'est mine de rien, une non-présence à l'accouchement aussi, c'est de l'argent qui sort. Enfin, qui ne rentre pas, qu'on avait peut-être potentiellement prévu. Voilà. Et donc, pour couvrir aussi le fait qu'on puisse ne pas être là, et on a quand même un support financier, c'est aussi assez important.
Ah, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre, vite fait, et nous dire ce livre que tu as écrit, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en cours d'écriture, je ne sais pas.
Oui, ils sont même il y en a un autre qui est déjà terminé.
Oui, voilà, un autre. Ouais.
Qui est à la même maison d'édition également. Donc déjà, celui-ci, c'est Naître ici, donc le guide de la naissance respectée en France. Mon but, c'était vraiment d'écrire. On en a parlé pour les formations. Pour les livres, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits comme ça autour de la naissance naturelle, de la naissance physiologique, de la naissance, les pleines capacités de la femme pour accoucher. Et de mon point de vue, et de femme, de mère et de doula, on n'avait pas une vision très juste de la naissance en France, puisque on se retrouvait avec des femmes qui étaient là, mais oui, c'est ça, et à se heurter à une société hyper réfractaire, à des maternités qui ne sont pas du tout encourageantes là-dedans. À une vision de l'accouchement à domicile qui est presque on est des extraterrestres, on est un peu inconscient quand on parle. Donc mon but à moi, c'était vraiment de redonner pleinement les capacités de la femme à enfanter, de parler de son rapport à son corps, de la réappropriation de la naissance, de la douleur, de tout ça, de déconstruire un peu toutes les idées reçues, donc ce qu'on fait aussi pas mal dans certains livres, mais voilà, avec ma façon à moi de le faire et ma posture à moi, et également de donner de l'information ciblée sur quelle est la situation française actuellement et sur qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on veut accoucher en France de cette manière-là, notamment en maternité, parce que c'est un gros pourcentage des accouchements. Oui, il est possible, quels sont les droits des femmes en maternité, il est totalement possible d'avoir un accouchement respecté. Alors respecté ne veut pas forcément dire physiologique, c'est important, hein. Moi, bien sûr que je défends les accouchements physiologiques, les accouchements à la maison, les accouchements naturels. Néanmoins, pour moi, c'est important que les femmes, elles soient respectées dans leur naissance. Je l'ai dit, j'ai ce côté militantisme à ce niveau-là. Je milite beaucoup contre les violences obstétricales. Et pour moi, une femme qui va faire un accouchement physio, qui se passe parfaitement bien au point de vue physique, mais qui se fait brutaliser par les équipes soignantes, non respectée, etc. Pour moi, ça, c'est pas une naissance respectée. De même, on peut avoir une naissance extrêmement bien respectée et médicalisée parce que la femme a été écoutée de A à Z, qu'on a pris en compte ses besoins, ceux de son bébé, etc. Et avoir une naissance naturelle, même à la maison, et pas du tout respectée. Et donc, c'était important vraiment pour moi de dire aux femmes quels sont vos droits. Et puis de leur donner les informations, ce que je fais aussi beaucoup dans les accompagnements, pour qu'elles puissent prendre des choix en conscience et dire ouais, il y a des choses qui sont faites comme ça. Et on sait que les maternités, c'est extrêmement protocolisé, et ça, c'est au détriment de la santé de la femme et de son bien-être aussi la plupart du temps. Donc c'était hyper important de remettre ça au centre, parce qu'on n'est pas au courant de ça, et quand on ouvre un peu la porte des témoignages des violences obstétricales, on se rend compte que c'est vraiment monnaie courante, et que même beaucoup de femmes ont subi des violences sans savoir que c'était des violences, quoi, parce que c'est classique, c'est courant. Ouais, c'est donc vraiment, pouvoir dire des femmes qui ont des traumatismes, par exemple, qui ont une sexualité qui n'est pas du tout épanouie, mais en fait qui ont des traumatismes qui remontent aux visites gynécologiques, même de quand elles étaient adolescentes, même pas encore sexuées, actives sexuellement, je veux dire, plutôt que sexuées, ça veut dire. Mais parce qu'on les a violentées d'une certaine manière, quoi. Et on peut être violent tout en étant gentil. Et ça, oui, c'est super difficile. Mais maintenant, vraiment, les paroles se libèrent. Donc, c'est super important. Le mouvement Une femme, une sage-femme et toutes ces sages-femmes qui disent « je suis maltraitante », le reconnaissent. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, on peut avoir des personnes géniales, mais qui, par faute de moyens, ne peuvent pas faire mieux que ce qu'elles font actuellement. Et donc, c'est aussi aux femmes à se réapproprier leur corps et à savoir ce qu'elles sont capables de faire et de dire ce qu'elles veulent. Et moi, mon but, c'est que quand elles rentrent dans une maternité, elles savent qu'elles ont besoin de personne, même à la maternité. Et donc voilà. Donc, ce livre a ce but-là. Et puis, il y a bien sûr un recueil de témoignages parce que je trouve ça toujours super important de donner la parole aux femmes. Ouais. Et il y a un recueil de témoignages justement qui alterne les naissances très respectées et les naissances violentes. Ouais. Et donc, j'ai mis en place un petit pictogramme et tout parce que je trouve ça très important et c'est ce que je dis dans le livre. Quand on est enceinte, de ne pas lire les naissances négatives, hein, les violences, parce qu'on a besoin d'ocytocine, on a besoin de se booster, de se gorger de positif. Donc ça, c'est super important. Mmh. Je pense que ces témoignages de violence, ils sont aussi importants, donc à lire aussi, quoi. Ils sont voilà. Et le second livre sera aussi chez Mama Édition, devrait sortir en janvier, normalement. Mais bon, c'est bien parti. Il sera sur l'allaitement maternel, celui-ci.
D'accord.
Donc il est dans la même veine que Naître ici, hein, vraiment, avec un recueil de témoignages, avec voilà la posture française, comment ça se passe. La réappropriation du corps aussi.
Ok, voilà. Donc c'est bien active hein, quand même, même si là, t'as
ouais.
Pied, Finalement, c'est combien de temps que t'es doula? Ça fait quoi, 3 ans du coup, puisque ta grande, ou ton grand d'ailleurs, je ne sais pas si tu m'as
dit. Ma grande, elle a 4 ans.
Ta grande a 4 ans. Donc,
ouais. 4 ans, oui, tout à fait. Oui, parce que j'ai commencé à accompagner pendant ma formation. J'étais pas. Donc c'est en bonne 4 années ouais, de doula et un peu plus d'accompagnement des femmes, du coup, 5 ans
d'accompagnement. Tu as fait beaucoup de choses en peu de temps, finalement. Hein.
Oui. Bon, oui, c'est intense. Super. Mais bon, moi, tu sais, je suis. Je ne sais pas si tu connais un peu le human design, mais c'est très, très intéressant. C'est quelque chose qui va te calculer un peu sur le même modèle que l'astrologie, mais c'est très intéressant parce que ça te calcule ton type de personne que tu es, ton profil, autorité émotionnelle, et ça te donne un peu une idée de comment tu fonctionnes. Alors c'est comme tout, hein, tu prends pas, mais moi je suis donc, mon type c'est générateur manifestor. Et le truc de ces personnes-là, c'est que typiquement, si je ne m'épanouis pas dans un métier, je suis pleine de frustration et on est typiquement des personnes qui peuvent avoir des burn-out facilement, etc. C'est 70% de la population qui est générateur quand même, donc ça fait pas mal. Ouais. Mais quand on s'épanouit dans une activité, en fait, on a ce qu'on appelle une énergie illimitée. On est vachement dans la création et dans donc moi j'ai vraiment la sensation cette sensation là d'avoir trouvé ma voie et en fait j'ai pas l'impression de alors j'ai beaucoup de boulot et parfois c'est trop mais j'y arrive tu vois
j'ai pas l'impression de travailler en fait
c'est ça que j'aime vraiment et j'ai vraiment l'impression que ça a de l'impact. Et je m'épanouis vraiment dedans. Et en fait, c'est un combat qui est super important pour moi. Parce que la naissance, c'est quand même le premier pas des gens sur Terre, quoi. C'est notre premier moment. La façon dont on accueille les bébés, la façon dont. Et les mères vivent les naissances. Quand on a une naissance traumatique, c'est vraiment. Il faut du temps pour en guérir. Des fois, il y a des femmes, surtout à l'époque de nos mères, par exemple, qui en ont vécu énormément. On n'en guérit jamais vraiment. Ça peut créer des choses énormes. Donc, vraiment, dire aux femmes que, en fait, c'est pas normal qu'on vive certaines choses. Et ça permet d'accepter aussi, de les guérir aussi, finalement.
Ouais.
Et bon, bref, c'est... Et puis, il faut aussi qu'on le dise, quoi. C'est super important. Donc, moi, ça me pose jamais vraiment de problème de dire les choses. Donc, je le fais.
Ok, bon, ben super. Ben, je vais te libérer, du coup, Julie. Voilà, ben, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. C'était chouette. On aurait pu continuer, mais bon.
Oui.
Écoute, c'est peut-être qu'un jour, je reviendrai vers toi pour que tu me parles de ton livre ou d'un autre projet que tu mettras en place.
Avec plaisir.
Bon, ben, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, alors, peut-être.
À bientôt. Oui. Et merci à toi de l'invitation.
Ouais, merci.
Merci mille fois, Julie, de m'avoir accordé un peu de ton temps si précieux. Je te souhaite encore de doux moments pour cette fin de grossesse. Si vous ne connaissez pas encore l'univers de Julie, je vous propose d'aller découvrir son très beau compte Instagram julie.toutain et son site internet. Je salue aussi la créatrice du compte Instagram Doula et Droit, dont on évoque souvent le travail dans l'épisode. Si cet épisode vous a plu ou si vous connaissez des personnes qui s'intéressent à la formation de doula, vous pouvez partager ce post et parler du podcast. Ça me motiverait beaucoup à poursuivre cette aventure. À bientôt sur Mission Doula.